on peut pas arriver enfin forcément à 7 heures de la journée après tout ce qu'on a entendu enfin pour moi et parler tout à fait de la même manière. Donc je vais bouger pas mal de choses dans ce que j'avais préparé dans ma tête par rapport à des questions qui sont posées et entre autres une qu'on a abordée concernant la photographie ce matin. Qui était que qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas et comment on le montre, qui a été reprise d'une certaine manière aussi dans les deux interventions précédentes, c'est-à-dire sur le récit, comment est-ce que on écrit ça, comment on écrit ces histoires, comment on écrit ces passages. Il y a une chose qui me paraît importante aussi, c'est de dire comment on est là. Et par exemple, bon, je trouvais que tout à l'heure, Enzo Barnaba avait bien montré comment c'est à partir de sa situation de vie, finalement, que les choses se présentaient. Et je crois que c'est important pour un écrivain, lorsqu'on se met à écrire, on est accompagné à notre insu par tout ce que l'on a vécu, tout ce qu'on nous a transmis. Et donc, je crois que lorsque j'écris en lien avec l'immigration, pour moi, cette écriture, sans que j'en aie conscience au départ, est bordée par les trois frontières niçoises. Je suis niçois, même si j'ai vécu longtemps ailleurs, Sioux-Niçard, et je suis sensible aux trois frontières niçoises. La frontière du Var, la frontière de la mer, et la frontière de la montagne. Frontière du Var, dans mon histoire, elle a une date, c'est 1851. Les historiens, je suis un peu inquiet parce que je vais dire des choses devant des historiens, alors moi, je ne suis pas toujours très compétent, mais bon, 1851, c'est le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Vous savez, le monsieur qui a été élu président de la République, et qui a fait un coup d'État et qui est devenu empereur. Je ne sais pas, c'est peut-être des choses dont on peut, par les temps qui courent, avoir dans la tête. Ça ne peut peut-être pas faire de mal. Et donc, 1851, coup d'État de Napoléon III, et le Var, qui est maintenant le Var, mais qui était les Alpes, une partie aussi des Alpes-Maritimes à l'époque, qui est un territoire rouge, rentre en insurrection. Et donc, j'ai un arrière-grand-père, comme ça, qui doit fuir le village de Montauroux en sautant par la fenêtre. Et qui, par les chemins, avec ses quelques camarades, se réfugie, passe à la frontière, en exil, à Nice. C'est-à-dire que c'est une frontière qui, à ce moment-là, fonctionne dans l'autre sens. Frontière de la mer, j'ai passé toute mon enfance près du quai des États-Unis, et que cette mer, quand je venais m'asseoir sur les galets, c'était toujours me demander ce qu'il y avait en face. Et à rêver, à imaginer des rencontres possibles avec celle ou celui qui reviendrait, qui arriverait d'en face. Bon, j'ai écrit ça dans quelques livres. Et la troisième frontière, pour moi, elle était représentée par un nom qui est le Pas des Ladres. Le Pas des Ladres, c'est au-dessus de Notre-Dame de Fenestre, qui est le. Bon, une frontière avec l'Italie est sans doute une des plus simples à atteindre quand on n'est pas très grand. Et quand on arrivait là, ça s'appelle le pas des ladres, le pas des voleurs, que de l'autre côté, il y a le col de Fenestre aussi, comme si voilà, ce passage-là avec l'ailleurs, il était lié simplement à une fenêtre, on regarde, et ou bien c'est les voleurs qui passent par là. Mais en tout cas, il y avait une réalité matérielle. Et il se trouve que. Un autre endroit qui m'a. Bon, j'essaie de décrire un paysage. C'est lorsqu'on monte de Tende jusqu'au col, il y a l'Aca, hein, qui est donc cette maison qui est à mi-pente, disons, qui était, alors suivant les temps, suivant les époques, un lieu de refuge, lorsque la tempête était trop forte, mais où il y a eu des compagnies militaires qui ont été postées là, aussi bien pour aider les gens que pour prévenir toute ascension. Et donc, disons, on peut dire un peu constitué par tout ça, Je me retrouve un jour au monastère de Saorge, en résidence, puisque c'est un lieu de résidence d'auteur, où j'étais venu pour écrire un livre où il était beaucoup question de petites gens, des gens en difficulté que j'avais rencontrés dans les ateliers d'écriture. Et en pleine nuit, j'entends taper des coups et d'une violence. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a un chantier ici qui se passe en pleine nuit. Et en fait, j'avais passé la journée à aller dans la montagne avec un ânier qui chargeait ses ânes pour amener dans la montagne à ceux qui habitent là. Maintenant, c'est vite concurrencé par les scooters à quatre roues, toutes ces choses-là. Mais bon, avec son âne, et je me suis dit, c'est l'âne. C'est l'âne qui est en train de taper du pied, du sabot. On dit un pied pour un cheval, mais je ne sais pas si on dit ça pour un âne. Ça l'avait réveillé au milieu de la nuit. Des coups, comme si quelqu'un tapait avec un marteau. Drôle de moment pour faire des travaux. Une urgence peut-être. Il s'était redressé dans le lit, tendant l'oreille, guettant d'où ça venait. Par moments, les coups étaient si violents qu'on aurait dit qu'ils secouaient la nuit. Il ne comprenait pas qu'avec un bruit pareil, toute la maison ne soit pas réveillée, qu'il n'y ait pas de lumière, que sa mère ne soit pas déjà en train d'arpenter le couloir ou la cuisine, déjà qu'elle avait le sommeil léger. Si personne ne bougeait, c'était que ça n'avait pas d'importance, rien de grave. Juste un abruti qui, en pleine nuit, s'était mis à réparer la porte. Lino s'était levé. C'est ainsi que commence l'histoire qui est venue après ce tapement sur une porte. Et donc, Lino est un jeune garçon, et il y a un âne, effectivement, que Lino va suivre, et qui va l'amener à deux autres camarades qui sont au collège avec lui, c'est une sorte de conte, et qui va les réveiller en pleine nuit, et tous trois vont partir à la suite de l'âne. Lino, Samir et Sarah. Et il se trouve que, bon, c'est un peu marqué, mais les trois ont des origines particulières. Et ils vont s'apercevoir en cours de route et arriver au but, arriver à une maison qui ressemble un peu à la case du col de Tende, que leur histoire familiale a chacun un lien avec cette maison-là. L'un, Lino, parce que son grand-père était un opposant à Mussolini et a passé la frontière par la montagne. Le deuxième, la deuxième, Sarah, plutôt, parce que sa grand-mère a été cachée. Bon, la fiction permet de confondre les lieux, hein, de n'en faire plus qu'un, quoi. Sarah, parce que sa grand-mère a été cachée, juive, a été cachée dans cette maison pendant la guerre. Et le troisième, Samir, parce que son grand-père, lui, qui faisait partie, qui était un goumier marocain. Donc, il faut quand même rappeler, enfin, c'est des choses que j'ai souvent répétées, que c'était les Arabes qui avaient libéré la Provence, qui, entre autres, à une époque, qui ont libéré Toulon. C'était intéressant à raconter, mais ça l'est toujours. Et donc, tous vont se retrouver avec un lien dans cette maison. Et du coup, il y a là-dedans un passage de frontière qui est lié au grand-père de Lino, qui s'appelait Attilio Barbero. Attilio Barbero, il se trouve que ma grand-mère s'appelait Barbero et venait du Piémont. Attilio a fui, il a trouvé un passeur, et comme il n'a pas d'argent, il est convenu, mais Attilio a un âne, et il est convenu avec le passeur que d'accord, il l'amenait, mais une fois qu'il l'aurait passé, le passeur repartirait avec l'âne. On s'est aussi posé la question justement de la représentation de ces passages. Hein, moi, c'est une question qui après ça, mais j'en parlerai après, si Agnès me laisse un peu de temps. Tout autour, les montagnes étaient impressionnantes. Des cimes de pierre qui ressemblaient à des dents. Des crocs de loup, pensait Attilio, qui n'en avait jamais vu de si haute, pourvu qu'elle ne me dévore pas. On entendait aussi de lourds craquements, comme si par endroits la montagne se déchirait, les pierres dévalées, ou bien c'était des avalanches de neige qui, dans un grand fracas, emplissaient la vallée d'une sorte de brouillard blanc. Et quand Attilio levait la tête, il voyait au-dessus d'eux ces pans de neige qui pouvaient s'effondrer d'un moment à l'autre. « On aurait dû attendre, dit le passeur. La neige est encore trop dangereuse. il se rendait bien compte qu'à ces hauteurs, le printemps n'avait pas encore fait son œuvre. À tout moment, cela pouvait être fatal. Il marchait. Et même le passeur avait le souffle court. Un vent très froid s'était levé. La modeste veste d'Attilio n'arrivait pas plus à le protéger. « Manquerait plus que le brouillard se lève, » dit le passeur. « Si je devais mourir maintenant, » pensait Attilio, « il n'y aurait rien à regretter. J'aurais fait ce que j'avais à faire. C'est quand même ça qui compte. » Il pensait quand même à sa mère, qui ne saurait pas ce qu'il serait devenu. Il pensait à ses camarades. Il pensait à ceux qu'il ne connaissait pas et qu'il attendait quelque part dans le monde. Il pensait à quand il serait vieux, aux enfants qu'il aurait, à ses petits-enfants. Et tout ça lui donnait furieusement envie de vivre. Il avait accéléré le pas. Profitant d'un moment où le passeur s'était arrêté pour boire, l'âne l'avait dépassé et Attilio avait fait de même. « Si ça vous amuse de courir, » avait lancé le passeur en essayant de rire. « Moi, je fais une pause. » Attilio allait s'arrêter lui aussi, mais cette fois, bizarrement, l'âne, au lieu de l'attendre comme il le faisait d'habitude, choisit d'avancer. Attilio n'hésita pas, lui aussi accéléra le pas et rattrapa l'âne un peu plus loin. C'est à ce moment-là qu'il y eut ce bruit terrible, comme si la montagne allait s'écrouler sur eux. L'âne courut, Attilio courut, aussi loin qu'il put. Quand il se retourna, le chemin par où ils étaient passés n'existait plus. L'endroit où le passeur s'était arrêté n'existait plus. C'était comme si une nouvelle montagne de neige avait surgi là, et puis ce fut un grand silence. Attilio lança bien quelques timides appels, pas de réponse. Il n'osait crier fort de peur de réveiller à nouveau la montagne. Personne ne répondait. Le passeur avait bien été englouti par la neige, comme une bête qui l'aurait dévoré. Attilio était seul, sans guide, et difficile de revenir dans la vallée puisque l'avalanche de neige avait emporté le chemin. Passer par là aurait été bien dangereux. « Cette fois, c'est fichu, » se dit Attilio. « Moi aussi, je vais y laisser la peau. » Alors, il entendit des bruits dans son dos, sabots contre la pierre, l'âne raclait le sol, impatient, toujours tourné en direction du sommet. Attilio fit quelques pas vers lui. L'âne se mit en route. Que pouvait faire Attilio, sinon le suivre? Il marchait. Des heures encore, ils avaient marché. Et maintenant, c'était comme s'ils étaient entrés à l'intérieur de nuages. On n'y voyait plus rien. Pour ne pas se perdre, Attilio avançait en retenant la queue de l'âne. Ils marchaient comme s'ils étaient devenus des fantômes. Ils traversèrent le nuage. C'est quand ils en furent sortis que Attilio réalisa, quand le brouillard se leva et que les montagnes tout autour furent de nouveau visibles, les montagnes n'étaient plus à la même place. Au lieu d'avoir ce mur devant eux, elles semblaient bien s'écarter pour les laisser passer. Ils avaient franchi. Sans s'en rendre compte, ils avaient franchi le col. Attilio en avait les larmes aux yeux, mais l'âne, lui, continuait à avancer. La suite ne fut pas de tout repos. Descendre n'était pas plus facile que monter, le chemin était encore plus raide, le risque de chute était permanent, il n'avançait que pas à pas, lentement. On voyait bien que la nuit n'allait pas tarder. Attilio se souvenait de ce qu'avait dit le passeur, du danger de mourir de froid si on passait la nuit à ces hauteurs. Mais dans la nuit, les risques de tomber étaient encore plus grands. L'âne n'avait pas l'air de s'inquiéter. Un pas, puis un pas, puis un pas. C'était toujours sa règle de conduite, comme si à force de marcher, il finirait bien par y avoir quelque chose au bout. Et ce fut ce qui arriva. Une lumière. Une lumière dans la nuit, pas très loin, en contrebas. Attilio se serait bien mis à courir, mais l'âne ne le laissa pas faire. Un pas, puis un pas, puis un pas, ils arrivèrent à la maison, une sorte de bergerie. Il y avait une lampe à pétrole qui brûlait au-dessus de la porte. Attilio frappa, pas de réponse. Attilio frappa encore. Il y avait juste une barre de bois qui fermait la porte. Attilio la leva, ouvrit. Il décrocha la lampe à pétrole pour voir à l'intérieur. Personne. Une sorte de grange. L'âne entra derrière lui et aussitôt se dirigea vers un tas de paille dans lequel il se roula. Il y avait une sorte de matelas aussi. Et accroché au mur un papier sur lequel était écrit en français et en italien « Ami, sois le bienvenu. Il y a du pain et du vin dans le garde-manger. » Mange, bois, dors. Et ce que je fais là pour toi un jour, fais-le pour quelqu'un d'autre. Vive la liberté. » C'est une lecture que je peux dédier aux amis de la Roya et qui propose cet accueil. À partir de là, il se trouve que, de manière assez étrange, c'est comme si l'âne, moi aussi, m'avait entraîné, puisque, et là je m'éloigne un peu de cette frontière-là, puisque successivement, j'ai été amené à faire différents travaux, dont un, je ne savais pas qu'elle serait là à la table, mais je le dis grâce à Agnès, qui est un livre qui s'appelle « Le vent vivant des peuples », qui est sur des 100 récit de migration dans la région Champagne-Ardenne, et qui repose sur une, le titre est une phrase de Paul Valéry, qui est que les nations, qui est sur la France, qui est que les nations sont toujours portées par le vent vivant des peuples. Et ce vent vivant, bon, quelques temps après, j'ai travaillé avec des Chibani, des anciens combattants de l'armée marocaine, qui étaient dans des foyers dans le nord de la France, et avec qui on a écrit ce livre, Oubliés de guerre. Il se trouve qu'à un moment, j'ai eu le désir d'aller voir, avec l'ami photographe avec qui je travaillais, d'aller voir où ces personnes habitaient, c'est-à-dire quel était le point de départ de leur migration, puisque ces vieux monsieur, pour conserver leur pension, le minimum vieillesse à l'époque, puisqu'ils n'avaient pas droit à des pensions militaires ou alors infimes, faisaient des trajets extrêmement longs, du nord de la France jusqu'à Casablanca, Marrakech, dans des petits villages. Et je suis parti dans les petits villages où ces gens habitaient, et il se trouve que la plupart venaient d'une région qu'au Maroc, on appelle le Triangle de la Mort, qui est autour d'une région de Beni Mellal, Kouribga, et où il y avait une association qui faisait de l'éducation par rapport aux jeunes pour justement les dissuader de partir. Parce qu'on parlait des passeurs tout à l'heure. Il se trouve qu'à Kouribga, qui est le centre, un centre de départ extrêmement important, même si c'est la capitale du phosphate du Maroc, il y a des bistrots magnifiques avec des tables en marbre et tout ça. Et en fait, on vous explique que ce sont les bistrots des passeurs. C'est-à-dire que l'argent est mis en vitrine et du coup, de nouveaux candidats au départ. Et cela m'a entraîné sur un chemin qui m'a amené dans le nord du Maroc, à Nador, on parlait des enclaves tout à l'heure, Melilla, Ceuta, à Oujda, où j'ai rencontré de nombreux passants, hein, puisqu'il y a des passeurs, il y a aussi des passants ou des candidats au passage. Combien il me reste ? 2 minutes. Et voilà, ça n'a pas forcément un rapport avec notre mur à nous, auquel nous sommes confrontés si proches, mais ça a rapport à cette frontière de la mer et à la question de comment essayer de dire ces choses-là. D'un côté, il y avait la mer, et de l'autre, quelque chose d'indéfinissable qui, selon la manière avec laquelle on le regardait, pouvait tout aussi bien être une plaine aride, chardon, gené, plus de pierre que de terre, ou alors une sorte de rizière inondée, marée, marécage, roseau, aile d'oiseau. Mais ce pouvait tout aussi bien être la mer de ce côté-là aussi, et l'impression de rouler entre deux vagues. La peur d'être submergé, la mer était agitée. C'était maintenant une foule dense qui avançait sur la route. Hommes, femmes, enfants. La plupart n'avaient pas grand-chose comme bagage, un sac, une valise ou même rien. Ils avançaient comme ils pouvaient, se bousculaient ou s'entraidant. Tous étaient jeunes, corps et visage jeunes, mais épuisés par la marche, le vent, la pluie. Ils étaient mal chaussés, pas suffisamment couverts. On voyait bien qu'ils avaient dû partir à la va-vite, ou bien qu'ils avaient perdu en route le peu qu'ils avaient réussi à emporter. Toutes ces tailles, ces silhouettes, des hommes immenses dépassant d'une bonne tête ceux qui les entouraient, des plus petits, des rablés, toutes les couleurs du noir. Aussi, lorsque le maigre soleil venait faire briller la pluie sur les joues épuisées, les femmes semblaient plus vaillantes, plus décidées ou, au contraire, incapables d'avancer, se traînant les unes les autres. Les tissus, autrefois chamarrés, dont elles s'étaient drapées, n'étaient plus que des loques trempées, délavées, comme si le vent et la fatigue en avaient aussi emporté les couleurs. Certaines portaient des enfants ficelés dans le dos ou bien devant, accrochés par la bouche aux seins qu'ils essayaient de téter. Il y en avait de plus grands qui semblaient marcher à côté d'elles ou que des hommes avaient pris sur leurs épaules lorsqu'ils étaient vraiment trop fatigués. Mais c'était les livrés à la fureur du vent. Ils savaient bien que marcher, toujours marcher, tenir le rythme, la cadence, était le seul moyen pour échapper aux vagues, à la mer qui se refermait derrière eux. Leur passage ne devait laisser aucune trace, aucune mémoire. Ils devaient disparaître, ou bien noyés, ou bien perdus dans la nature, comme on le dit, ni vus, ni connus. De toute façon, c'était comme s'ils n'existaient pas. Peut-être restait-il au pays quelqu'un qui se souvenait d'eux, ou qui attendait d'eux quelque chose, qui espérait que cet exode, lui, soit aussi profitable, mais dans la mesure où s'ils venaient à disparaître, personne ne le saurait jamais, ceux qui étaient restés au pays, au bout d'un long temps, sans nouvelles, finiraient par se dire que l'exodé, comment appelle-t-on les condamnés à l'exode, les avait oubliés, la tête trop remplie de l'argent qu'il avait gagné. Si bien que celui qui était resté, et s'était encore longtemps souvenu, finirait par partir à son tour, exodé lui aussi. Et parmi ceux qui avançaient, maintenant en rang serré sur la route battue par le vent et la pluie, il devait y en avoir pas mal dans ce cas-là, qui avaient vu partir un fils, un frère, un mari, et qui, ne le voyant pas revenir, s'étaient mis en route à leur tour. « Je le retrouverai », il devait se dire. « S'il est encore vivant, je le retrouverai. » Sans doute y avait-il pour eux aussi quelqu'un resté au pays, qui attendait des nouvelles, qui espérait. « La mer va tous nous manger », disait un homme. Mais la masse humaine continuait d'avancer sur cette route, ce pont esquissé d'une rive à l'autre, ce comblement de la mer du milieu, qui n'était en fait rien d'autre que le résultat de l'amoncellement des corps, milliers et milliers de corps qui s'y étaient noyés en voulant traverser. La terrible application de cette vieille morale de l'univers, selon laquelle tout ce qui meurt finit un jour à l'autre par devenir profit pour les vivants, vers chenilles, oiseaux, poissons, hommes et femmes, tous ceux qui continuaient à marcher dans cette obscurité d'orage, marchaient, marchaient, avec pour seul soleil la venue jusqu'à eux de la rive. Cette mer, presque plate, la mer descendait lentement dans la mer. Excusez-moi, j'ai raté une ligne. Marchait, marchait. Avec le soir, force était de constater que la route n'était pas plate, qu'elle descendait lentement dans la mer. Difficile d'imaginer, pour cette mer presque close, que ce pût être l'effet de la marée, quoique, au résultat, cela n'aurait pas changé grand-chose. Ou bien, c'était l'eau qui montait, de chaque côté, jusqu'aux genoux des enfants, puis bientôt à leur taille. On les avait juchés sur les épaules des hommes les plus vaillants, mais ce n'était que repousser l'échéance. Maintenant, c'était les hommes qui avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Les femmes en avaient jusqu'à la taille. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, pas un ne se disait qu'il valait mieux faire marche arrière. À quoi bon ? Derrière eux, la route s'effaçait avec leurs pas. Que pouvaient-ils faire d'autre que continuer, marcher, marcher encore, le rythme de la marche devenu comme une seconde respiration. Et s'arrêter, c'était mourir sur place. Certains, qui n'en pouvaient plus, avaient réalisé que cela irait plus vite, de se laisser gagner par la mer qui poussait derrière eux plutôt que de s'y enfoncer pas à pas. Ils s'asseyaient sur le bord de la route et attendaient que cela vienne. Aucun de ceux qui continuaient à marcher ne se retournait, ne serait-ce que pour un geste de la main. Sans doute réalisaient-ils que cela n'avait pas beaucoup de sens de se dire au revoir puisqu'ils allaient tous au même endroit, Inch'Allah, à la grâce de Dieu. C'était effectivement le moment où il n'y avait plus qu'à s'en remettre à Dieu pour ce qui était des affaires des hommes. C'était entendu. Il y avait cependant des femmes qui se souvenaient de la vieille histoire et qui, au lieu de continuer à marcher tête baissée, arrachaient comme elles le pouvaient des roseaux qui encore dépassaient de l'eau et qui, tout en marchant, tressaient ces brins fragiles et sauvages, les nouaient avec ce qu'elles avaient sur elles, bouts de sacs, de valises, bouts de tissus qu'elles arrachaient à leurs vêtements, si bien qu'à force de tirer dessus, certaines se retrouvaient presque nues. À force d'assemblage, ça faisait des sortes de paniers dans lesquels elle déposait l'enfant qu'elle portait dans le dos. Puis, elle mettait le tout, l'enfant et le panier, en équilibre sur la tête comme elles en avaient l'habitude. Alors, elles accéléraient le pas, ou plutôt, elles lui donnaient une allure solennelle, définitive, qui, malgré la difficulté d'avancer dans une eau de plus en plus profonde, se communiquait à l'ensemble du corps, seins nus, comme des nénuphars à la surface de l'eau, épaules comme des courges d'eau, la tête brillant par-là-dessus avec une fierté d'étoile, comme on les voit parfois à la nuit, venant coucher leur reflet dans l'eau calme. Lumière qu'il est impossible de venir noyer, tant leur éclat semble iriser la mer. Ainsi, ces femmes, qui pénétraient de tout leur corps dans une matrice bien plus vaste qu'elles, bien plus prodigue, elles l'espéraient, bien plus capables de défendre ces vies qu'elles avaient mises au monde, et dans le même mouvement que leur corps se soumettait à la pesanteur verticale qui délivrait de toute possibilité de souffle, elles faisaient naître, à la surface de l'eau, ces fruits de leurs entrailles, comme si c'était la mer elle-même qui de tout temps les avait portés, comme si c'était ventre à ventre que se faisait le legs, la donation, les femmes englouties, espérant sans doute pouvoir encore nourrir de leur corps défait par le sel et les courants, cette mer bien plus forte qu'elle, à la surface de laquelle, maintenant, flottaient de minuscules radeaux, à croire que ces petits enfants couchés dedans, c'étaient les yeux mêmes de la mer interrogeant le ciel. Merci.